Trainville BM. Les chefs.
Donc oui, c'est la confiance envers la jeunesse. Moi, je suis un optimiste pour le Québec. Et cette génération, je veux lui donner dès maintenant, on l'a vu, pas seulement une place importante aux commandes de l'État.
Je, André Fortin, déclare sous serment que je remplirai les devoirs de ma charge de ministre des Transports avec honnêteté et justice.
Je, Véronique Tremblay.
Madame Isabelle Melançon.
Je, Marie Montpetit.
Vice-première ministre, Madame Dominique Anglade.
47 % près de 50 % sont défendus. Un jour, on n'aura plus besoin de dire ça, c'est qu'on sera arrivé à destination. Avec le support et la compréhension des Québécois et des Québécoises, on a remis la Maison du Québec en ordre. Être ministre, c'est pas un emploi, c'est pas une job, c'est pas une position, c'est une fonction, c'est une mission.
Avec Antoine Robitaille et Alec Castonguay.
Ben voilà, ils sont là. Antoine Robitaille, chef du bureau d'enquête parlementaire du Journal de Montréal. Salut Antoine.
Bonjour.
Alec Castonguay, chef du bureau politique au magazine L'Actualité. Bonjour Alec.
Bonjour.
Alors, on va y aller évidemment avec le remaniement. Antoine, fais-nous un peu, donne-nous tes impressions là, à grands traits. Là. Qu'est-ce qui te frappe là-dedans? Là?
Quelques surprises, beaucoup de continuité quand même dans ce nouveau cabinet. Ben, les surprises, la principale, c'est quand même André Fortin, jeune député dans la trentaine, qui est catapulté, je dirais, à la tête du ministère des Transports. C'est donc un junior. On lui adjoint une autre junior, Véronique Tremblay, qui semble... Il semble bien qu'elle va devenir celle qui va faire la promotion du troisième lien dans la région de Québec.
Ah oui, c'est comme ça que tu l'interprètes, toi?
Ah, absolument. Puis
elle devient la ministre...
du troisième lien dans son,
ah oui?
dans son discours. Il a vraiment souligné, surtout que ce matin, en plus, il y a plusieurs personnes qui sont arrivées en retard à la sermentation parce qu'il y avait des problèmes sur le pont Pierre-Laporte, mais c'était quand même un forcené là, qui était... qui s'était hissé dans une des structures. Tout ça pour dire que le noyau dur est là. Barrette, Fournier, Letao, Coiteux, là, ça bouge pas. Hein? Donc, t'as un noyau qui est comme indélogeable. Il y aurait des offres qui auraient été faites à certains d'entre eux et des offres qui ont été refusées. Alors, il y a quand même des nouveaux noms. Je parlais d'André Fortin. Il y a 6 nouveaux noms, en fait. Puis 5 qui entrent au Conseil des ministres directement. Pourquoi je fais la distinction? Parce qu'il y a Philomena Rotti-Rotti qui devient présidente du caucus. La présidente du caucus, elle dirige les délibérations du caucus.
Elle mais a même siège au Conseil.
Siège au Conseil depuis 2001. Ouais. C'est récent quand même dans l'histoire. Elle siège au Conseil. Donc, on peut la considérer comme une membre... du Conseil des ministres.
Ouais.
Puis les autres
noms
nouveaux...
Tu n'inclus pas Billette parce qu'il était whip et donc siégeait déjà au Conseil, c'est ça?
Oui,
hein?
C'est ça.
Donc,
Marie-Montpetit, à la culture, c'est pour moi une surprise parce qu'on y voyait Isabelle Melançon, qui, elle, est à l'environnement. Et évidemment, on a taillé là, sur mesure un poste pour Robert Poëty qui va être un peu le ministre à l'intégrité. Et donc, il y a Véronique Tremblay aussi, une autre nouvelle dont j'ai parlé plus tôt. Alors, pour moi, il y a beaucoup là-dedans de... Il y a des manques de courage.
Des manques de courage. Tu veux dire,
Stéphanie Vallée, par exemple. Oui. Barrette, effectivement. Il y a Lise Thériault, premier ministre, il a tout enlevé. Ou à peu près, là. Elle se retrouve avec un... Il me semble qu'elle va de rétrogradation en rétrogradation. Lise Thériault, elle est ministre responsable de la protection du consommateur et de l'habitation.
Ouais,
ministre responsable de la région de Lanaudière. Elle était VP quand même, VPM, vice-première ministre. Et elle...
Donc, il aurait dû l'éjecter?
Tant qu'à y être. Mais c'est sûr qu'il avait besoin de garder un bon ratio de femmes. Je me demande comment elle a réagi, elle.
Ah, il paraît qu'elle n'a pas très bien réagi.
T'en as entendu parler. Ouais, moi, j'observais les visages entre deux tweets là, tout à l'heure à la cérémonie. C'est vrai qu'il y en a qui avaient l'air à moins bien réagir. Je pense à Kathleen Veil, par exemple, qui perd l'immigration, qui se retrouve ministre déléguée à la communauté anglophone. Et je vais te dire, Madame Veil, là, je me souviens très bien quand elle était entrée au Conseil des ministres dans les années 2007-2008, Madame Veil, elle voulait pas être associée à la communauté anglophone. Je me souviens que je l'avais désigné ainsi dans un texte et que son chef de cabinet m'avait écrit, m'avait même appelé pour dire là, franchement, elle a étudié en français, tout ça, arrêtez de
l'associer.
Oui, de l'associer, de l'étiqueter, c'est le mot que je cherchais ainsi. Alors, elle est ministre responsable de l'accès à l'information aussi.
Bien, la réforme des institutions démocratiques, pour l'avoir occupée, ça peut être intéressant si le gouvernement est intéressé à en faire des réformes des institutions démocratiques. Je suis pas sûr
qu'ils ont abandonné
libéraux.
Le projet de réformer le mode de scrutin il y a longtemps, après la commission Pelletier, qui s'était promenée partout au Québec. Et Benoît Pelletier, encore récemment, là, disait que finalement, au caucus, ça ne passait pas. Donc, mais l'accès à l'information, écoute, c'est extrêmement important pour nous, là, les journalistes. Je sais que
pour le grand public.
Pour le grand public,
Mais,
mais c'est une réforme qui est
majeure, hein,
qui est en panne.
Puis moi, je vais te dire franchement, pour l'avoir regardé quand j'étais là, c'est à un an des élections, oublie ça. Là, ils vont pas réformer la loi d'accès. Là. À moins qu'ils fassent des petits changements, mais une réforme en profondeur de la loi d'accès, ça exige plus qu'une année, là, parce que c'est très, très complexe. Là,
mais
avec Internet. Attends un petit peu, Antoine. Avec Internet, puis Facebook, puis tout le reste, là, je vais te dire, tout ce qui est réseau numérique, toute l'information qui circule sur Internet et tout le reste, de mettre en place une réforme sur l'accès à l'information. Quelle information?
Ben oui.
Puis, tu sais, laquelle tu rends public, puis c'est pas simple. C'est pas simple.
Et quelle indépendance pour les responsables d'accès à l'information?
Voilà.
Ça, c'est tout le problème. Là. On sent qu'il y a beaucoup d'ingérence politique actuellement. Et non, mais je voulais juste te donner un prix de la prédiction la plus audacieuse.
Anglade? La vice-première ministre.
Ben oui, la vice-première ministre, tu n'arrêtais pas de dire « j'ai aucune information, mais ça serait une bonne idée ».
Mais c'est vrai.
Ben, ils t'ont écouté.
Ben oui, ça a l'air.
Dominique Anglade est vice-première ministre.
C'est un bon choix, je pense, moi.
Oui, je sais, ça fait 3 jours que tu le défends.
Ben oui, je sais. Non, mais t'aurais pu trouver que c'était pas une bonne idée, même si ça fait 3 jours
j'ai
que
toujours...
je dis que ça en
non,
est une.
J'ai toujours été d'accord avec toi. Puis, okay. D'ailleurs,
merci.
Le premier ministre aussi.
Après coup, c'est très bon.
On avait le premier ministre de notre bord.
Alec Kiri, qui est là. Alec, vas-y donc, dis-nous donc, toi, comment tu réagis à ce remaniement?
Écoute, on a tellement dit que ça prenait de nouveaux visages à ce gouvernement-là qu'on va pas se plaindre maintenant d'en avoir des nouveaux qui montent en grade, mais je trouve qu'il y a certaines bouchées qui vont être grosses à avaler. Là. André Fortin au transport, là, il a beau être une figure montante du Parti libéral, puis on l'aime beaucoup, puis il travaille sérieusement, puis ça fait longtemps qu'il est dans les cercles libéraux, il était au fédéral avant, moi je l'ai connu à Ottawa lorsqu'il était attaché de presse de Jean Lapierre, entre autres au transport au fédéral. Je pense que c'est un député de talent, mais le ministère des Transports, avec les problèmes qu'on y connaît depuis longtemps, la corruption, la collusion, les firmes de génie qui font la pluie et le beau temps. C'est sûr que c'est pas aussi fort que ça l'était là, il y a quelques années, mais ça reste un ministère où on a besoin de grandes réformes. Et je trouve que la bouchée est grosse à avaler pour André Fortin. Donc, j'ai hâte de voir à quoi ça va
ressembler. Promotion temporaire, je pense.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Ben, je sais pas.
C'est dans un an, là, les élections, là. Et donc,
Je pense qu'il n'y aura pas le temps de faire un grand ménage, hein?
Ben non, c'est ça.
Il y aura pas le temps.
Mais c'est quelqu'un qu'on hisse au Conseil des ministres. Puis, advenant une réélection, ben, qui va être déjà un ministre expérimenté, qui va pouvoir avoir, si ça va bien, là, si ça se passe bien, mais en même temps, ça peut pas vraiment mal se passer dans l'année qui vient parce qu'il va pas y avoir grand-chose.
Mettons, ben, il doit commencer par gérer Hubert en premier.
Ben ouais, voilà. Hein, c'est quoi?
Son dossier prioritaire des prochains jours,
14
d'abord
octobre,
en commençant.
Hein? 14 octobre, l'échéance, dans trois jours.
Il y a quand même 2 ministres qui se sont cassés les dents sur Hubert, là.
Ça ne sera pas nécessairement facile. Puis il y en a d'autres qui ont des bouchées quand même importantes. Là, Isabelle Melançon à l'environnement, ça reste un ministère où c'est loin d'être évident actuellement que le Québec va atteindre ses cibles de réduction des gaz à effet de serre. Les voitures électriques se vendent pas aussi bien qu'on le pensait. Ça va prendre un coup de barre de ce côté-là.
L'objectif est de 100 000 en 2020.
100 000 voitures, je pense, à peu près. Là. Donc, on est assez loin de l'objectif.
100 000 voitures électriques, oui.
Bon, c'est ça. Et donc, il va y avoir quelque chose aussi. Puis c'est un ministère à controverse, dans le sens où on ne sait jamais quand une entreprise, finalement, décide de mettre un port en eau profonde directement où les boligos se reproduisent. Souvenez-vous de TransCanada, David Hurtel qui avait été pris de court, ou Montréal qui éjecte ses eaux usées dans le fleuve.
Il a fini par en adopter un.
Oui, c'est ça, qui finit par adopter un beluga. Donc, bref, ça, c'est un ministère qui est quand même important maintenant. Puis Isabelle Melançon, a de l'expérience dans les cabinets, mais ça va être quand même un ministère important. Puis je pense, en terminant, l'autre qui a quand même du travail à faire, ça va être la nouvelle ministre de la Culture, là, Marie Montpetit, parce que la politique culturelle québécoise, elle est prête, elle doit être déposée. Mais ça doit être suivi de budget puis d'orientation du gouvernement pour la mettre en application, cette nouvelle politique culturelle-là. Puis c'est elle qui commence en poste à se battre avec Ottawa pour l'entente avec Netflix, puis est-ce qu'on va imposer la TVQ ou non, même si Carlos Lightao est un gros morceau de ce débat-là, elle va avoir à gérer ça aussi. Bref, c'est intéressant d'avoir des nouveaux visages, là, puis je pense que ça va être rafraîchissant d'entendre peut-être des nouvelles voix, mais en même temps, je me dis, on les catapulte, pour reprendre le mot d'Antoine, dans des postes qui vont être, c'est vrai, juste pour un an, mais qui risque quand même d'avoir une courbe d'apprentissage importante, disons-le comme ça.
Est-ce que je peux vous demander, Antoine, deux questions. Oui? J'ai ouï dire, ça a circulé en tout cas, que dans le cas de Pierre Arquin, ça c'est comme, il aurait changé de ministère à la toute dernière minute. Il s'en allait pas au Trésor, il s'en allait ailleurs, puis là, ça aurait reviré de bord. Peut-être qu'il s'en allait au transport, justement.
Bien, on dit qu'il y en a trois qui ont refusé les transports. Et c'est pour ça qu'on se retrouvait avec deux juniors. Ce qui circulait tout à l'heure, mais j'avoue que c'est une hypothèse.
C'est une rumeur. Là. Disons une rumeur, mais c'est qui les trois?
Est-ce que Moreau, Arcand, Quatuor aurait refusé. Ah, oui. Mais est-ce que c'est vrai que ça circulait tout à l'heure dans les couloirs, mais j'avoue que j'ai pas fait de... J'ai pas eu le temps de faire de grandes vérifications.
Mais mon point, c'est trois ministres importants, donc seniors, qui ont refusé un poste parce que ce ministère-là est un peu casse-gueule. Donc, le fait que ce soit André Fortin qui en hérite ajoute à ma théorie de ça va être un gros ministère.
Il va y avoir
André
du
Fortin,
sport.
Oui, donc, il va y avoir
et donc,
du sport.
Et donc si l'information est exacte à l'effet que Arquin serait devenu président du Conseil du Trésor à toute dernière minute, ce que ça viendrait, mettons, où l'on jase, là, ce que ça pourrait vouloir dire, c'est que, il aurait accepté puis finalement refuser transport. Donc là, il aurait été, il serait retourné d'une certaine façon aux ressources naturelles en refusant transport. Et là, Moreau serait à ce moment-là retourné lui aussi au Conseil du Trésor. Et là, à la toute dernière minute, il y a quelqu'un qui aurait allumé puis a dit, regardez,
je comprends pas cette permutation.
Est-ce que vous échangez vos ministères? Moi, seriez-vous heureux? Et là, les deux auraient accepté de permuter, puis c'est comme ça qu'on se retrouve avec Moreau aux ressources.
Je comprends pas trop.
Là où
cette
était Arquin, et Arquin s'en va chez.
Et aux ressources naturelles, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. La politique énergétique a été déposée. On me faisait remarquer ça tout à l'heure. Donc, en tout cas, je comprends.
Mais ça a du sens, ce que je raconte là. Si effectivement, Arquin finit par dire, savez-vous quoi, là? Non, j'ai pas le goût d'aller au transport. Par contre, si Pierre est prêt à s'en venir aux ressources, moi, je serais prêt à m'en aller au Trésor à sa place. Regardez ça. Puis à toute dernière minute, les deux s'échangent le ministère. Ça se peut, ça.
Et je trouve que, tu sais, quand tu as beaucoup de ministres qui disent « Ah non, je veux pas remarcher dans les pas dans lesquels j'ai déjà marché », ça prouve que tu commences à avoir un manque de profondeur puis de nouveauté, je trouve. Tu sais? Et si c'est le cas pour... ces trois-là, en tout cas pour Arquin et Moreau, c'est l'idée de ce remaniement, c'était d'en finir avec l'usure, de sortir du passé, de l'ère Charest et tout ça. En plus, selon mes calculs, ils sont quand même 20 sur 30 à venir de l'ère Charest. Hein, il y a 11 personnes qui ont été ministres dans l'ère Charest dans le cabinet actuel.
11?
Oui, il y en a 11. Il y en a 6 qui ont été élus, des élus de l'ère Charest, puis 2 qui ont été conseillers de l'ère Charest, puis il y a le premier ministre qui vient de l'ère Charest. Ça fait que, oui, 11, absolument. Jean-Marc Fournier, Pierre Moreau, Lise Thériault, Pierre Arquin, je continue, j'avais fait ma petite liste.
Saint-Pierre.
Julie Boulay, Laurent Lessard, Kathleen Veil, Christine Saint-Pierre, Geoff Kelly, Dominique Vien, et puis Nicole Ménard. Ça fait 11.
C'est bien ça. On va écouter le premier ministre Couillard. Hein. On a un petit extrait
oui,
de son
discours. Il a fait un
discours
très axé sur la vie concrète du monde ordinaire et sur l'impact des transformations internationales sur cette même vie concrète. On peut l'écouter.
Le défi à relever est double. Se réaliser sur les plans personnels et professionnels, hommes et femmes. Comment concilier la présence essentielle auprès de nos enfants et les horaires liés au travail? Comment faciliter l'organisation de la vie familiale? Comment l'État peut-il ajouter de la souplesse pour faciliter la vie des parents? Ce sont les questions auxquelles nous voudrons apporter des réponses concrètes. D'abord, la réduction du fardeau fiscal. Déjà entreprise, par exemple, une famille dont les deux conjoints avec enfants font chacun 40 000 $, un revenu familial de 80 000 $, a 510 $ de plus dans ses poches. C'est bien, mais c'est pas assez. On va continuer.
OK.
C'est un peu une réplique à la Coalition Avenir Québec.
Oh oui, non. Puis tu sens qu'il veut se rapprocher par son discours, il veut se rapprocher des gens là, qui nous écoutent et qui seront éventuellement des électeurs le 1er octobre 2018 lors de l'élection générale. On va s'arrêter parce qu'il y a quand même, Antoine.
Autre chose
beaucoup
dans la vie.
Beaucoup d'autres choses dont Alec veut nous parler. Entre autres, libre-échange, Justin Trudeau qui est à Washington. Là, il y a quand même de la grosse information dont Alec veut nous parler. Donc on s'arrête un instant. Et revenez-nous parce qu'il y a vraiment beaucoup d'autres choses dont on veut vous parler. Alors, de retour avec Antoine Robitaille et Alec Castonguay. Alec, parle-nous du...
Dominion domine.
Du comité du Congrès qui a rencontré Justin Trudeau. Et Trudeau a fait pratiquement sale comble, n'est-ce pas?
Pratiquement sale comble. Le comité du Congrès sur les voies et moyens qui recevait Justin Trudeau ce matin. Il y a eu 36 des 40 membres démocrates et républicains qui se sont déplacés pour l'entendre parler des relations entre les deux pays. Ce qui est plutôt bon signe, hein? Ça montre que les membres du Congrès suivent cet enjeu-là de près. Évidemment, on parle de l'ALENA, là, qui est au cœur de la visite de Justin Trudeau à Washington depuis hier, qui se poursuit aujourd'hui. Donc, ce comité-là du Congrès sur les voies et moyens, c'est lui qui s'occupe des questions de commerce. Et donc, il va y avoir, ces représentants-là vont avoir leur mot à dire pour approuver le nouvel accord de l'ALENA, éventuellement, si on en signe un nouveau, ou encore pour empêcher Trump d'y mettre fin unilatéralement, parce que c'est pas clair, les juristes s'entendent pas. Est-ce que oui ou non, Trump peut déchirer l'ALENA sans que le Congrès puisse mettre un holà à ses volontés?
Est-ce que c'était public?
C'est une réunion à huis clos. Donc, c'est pas un témoignage comme on voit souvent, là, au Congrès, là, où les démocrates ou les républicains grillent les témoins devant eux, là. C'est pas comme ça.
Il va y avoir une transcription des échanges?
C'est une bonne question. Je le sais pas. Ça s'est terminé il y a pas très longtemps, fin d'avant-midi. Donc, je sais pas si on va pouvoir savoir exactement ce que Justin Trudeau a passé comme message aux élus du Congrès. Ça m'intéresserait aussi de le savoir.
Vraiment. Parce que, tu sais.
Effectivement.
Tu peux t'imaginer, ça devait lui brûler les lèvres. Que de poser la question si jamais on n'en arrive pas à une entente et que M. le Président veut retirer les États-Unis d'Amérique du traité de l'ALENA, comment entendez-vous réagir, chers membres du comité? Là?
Ça serait intéressant. Effectivement, une très bonne question. Ça serait intéressant de le savoir. On va peut-être pouvoir lui poser la question cet après-midi parce qu'il y a un point de presse prévu par Justin Trudeau à Washington après sa rencontre avec Donald Trump qui devrait commencer dans une quinzaine de minutes, là, s'il n'y a pas de retard. Donc, 13h45, la rencontre avec Donald Trump. On ne sait pas la durée, là, mais ensuite, il y a un point de presse de Justin Trudeau seul. Il n'y a pas de conférence de presse conjointe avec Donald Trump, comme ça a été le cas la dernière fois qu'il est allé le visiter. Mais donc, j'imagine que les journalistes vont lui poser quelques questions, d'abord sur la rencontre avec Donald Trump et ensuite sur comment ça s'est passé ce matin au Congrès, parce que c'est le genre de visite un peu inhabituel, hein, pour un premier ministre canadien d'aller à un comité spécifique du Congrès comme ça pour plaider la cause du Canada. Il faut dire qu'on est dans une situation exceptionnelle avec l'ALENA aussi, mais c'est assez rare qu'on ait un lobbying aussi intense aux plus hauts échelons du gouvernement canadien directement à un comité du Congrès. Donc, ça prouve que les enjeux sont assez élevés actuellement.
Voilà, je trouve ça très bon signe que le premier ministre s'en occupe de cette façon-là.
À Québec, il y a eu des échos de tout ça.
Ah oui?
La ministre des Relations internationales qui est restée en poste, finalement, Christine Saint-Pierre, en a parlé après que le premier ministre ait consacré une bonne partie de son discours à ce sujet-là. D'ailleurs, on peut peut-être écouter Mme Christine Saint-Pierre.
Il faut faire des démarches, faut y aller, faut faire les représentations nécessaires, de dire que l'ALENA, ça représente des emplois aussi pour les Américains. Pour l'ALENA, l'accord Canada-États-Unis représente 9 millions d'emplois sur le territoire américain. Alors, c'est considérable. Bien, on va voir qu'est-ce que ça va donner. On le souhaite et on veut continuer cette belle relation avec les États-Unis. C'est une relation qui est très, très, très intégrée. La relation commerciale est intégrée. On veut continuer cette relation et on veut faire comprendre que l'ALENA est dans l'intérêt aussi des Américains, autant que dans l'intérêt des Québécois.
D'ailleurs, Alec, la puissante Chambre de commerce des États-Unis s'inquiète de l'allure des pourparlers autour de l'ALENA.
Oui, parce que les négociations recommencent demain, quatrième ronde donc de pourparlers à Washington. Puis la Chambre de commerce des États-Unis, elle est très puissante. C'est 3 millions d'entreprises qui sont membres partout sur le territoire américain. La Chambre de commerce a ses entrées au Congrès, évidemment, et à la Maison-Blanche. Et pour te donner une idée, c'est le siège social de la Chambre de commerce des États-Unis à Washington est à quelques mètres de l'aile ouest de la Maison-Blanche, le fameux bureau ovale. C'est l'édifice le plus près physiquement de la Maison-Blanche que celui de la Chambre de commerce des États-Unis. Puis pendant les premières années de Barack Obama au pouvoir, souvenez-vous, l'économie américaine se relevait de la récession, là, c'était pas facile. Alors la Chambre de commerce des États-Unis avait déployé une immense banderole sur la façade de son édifice, 15 mètres de large par 10 mètres de haut, c'était gigantesque, puis on pouvait voir un seul mot, c'était écrit « Jobs » en gros, en rouge et bleu. Chaque fois que Barack Obama regardait par la fenêtre de son bureau ovale, la seule chose qu'il voyait, c'était la grosse pancarte « Jobs » de la Chambre de commerce des États-Unis. Alors, ça vous montre un peu le type de lobby, le très intense que fait la Chambre de commerce des États-Unis. Donc, faut s'intéresser à ce qu'ils disent et à ce qu'ils font. Et là, ce qu'ils disent et ce qu'ils font, ça pointe dans un mauvais sens pour le Canada. Ils sont la Chambre de commerce des États-Unis est très, très inquiète. Son PDG, Tom Donahue, tire la sonnette d'alarme. Il était hier au Mexique pour parler à des gens d'affaires. Donc, il va revenir évidemment à Washington demain là pour le début des négociations, mais il était au Mexique hier. Et il y a eu des mots très, très durs contre son propre gouvernement. Il a dit, puis je vais le citer là pour être bien clair, il dit « Laissez-moi être direct. » Ça, c'est Tom Donahue qui parle. « Il y a sur la table des pilules empoisonnées qui peuvent faire éclater une entente. Ce sont des propositions inutiles et inacceptables déposées par les États-Unis, dénoncées par la communauté d'affaires, les représentants au Congrès, les gouvernements du Canada et du Mexique et même par certaines agences du gouvernement américain lui-même. Nous entrons dans une phase critique et il est temps de sonner l'alarme. » Ça, c'est Tom Donahue, le grand PDG de la Chambre de commerce des États-Unis qui parle au Mexique hier. Il précise pas quelles sont les pilules empoisonnées dont à laquelle il fait référence, mais on a un peu une idée parce que dans la nouvelle élan, si je puis dire, là, de la Chambre de commerce des États-Unis à la Maison-Blanche, on a envoyé une lettre hier représentant 310 chambres de commerce locales aux États-Unis. Et là, on parle dans cette lettre-là notamment de la gestion de l'offre en agriculture. Et donc, on sent que les Américains qui veulent mettre en miettes la gestion de l'offre en agriculture au Canada, les Américains, du moins la Chambre de commerce des États-Unis, ont l'impression que c'est une pilule empoisonnée puis que ça peut faire dérailler toutes les négociations. Alors, dans cette lettre-là, ils prennent le temps de préciser que les exportations de produits agricoles des États-Unis vers le Canada et le Mexique sont passées de 9 à 38 milliards de dollars entre 1993 et 2016. Bref, que la Maison-Blanche arrête de penser que le lait, la volaille puis les œufs, c'est tout le secteur agricole, là, qu'il y a une grande partie du secteur agricole qui a bénéficié de l'ALENA puis que tout mettre à terre uniquement pour essayer d'avoir un petit peu plus de lait qui est exporté au Canada, c'est pas une bonne idée. Donc, c'est le type de pilule empoisonnée. Là, on fait référence au mécanisme de règlement des différends aussi, le fameux chapitre 19 que le Canada veut absolument conserver puis que les Américains veulent jeter à la poubelle. Donc, quand la puissante Chambre de commerce des États-Unis dit il y a des choses que notre propre gouvernement amène à la table qui peuvent faire dérailler les négociations, on tire la sonnette d'alarme.
Ça va mal.
Ça veut dire que publiquement, quand on est rendu à faire un lobby public comme M. Donahue est en train de le faire, c'est qu'on n'est pas très optimiste sur la nouvelle ronde de négociations qui commence demain. Là.
Oh boy. OK. Mais écoutez, il nous reste encore beaucoup de contenu. On va continuer demain, les amis, parce qu'il faut passer à l'international. Je rappelle qu'Alec Castonguay est le chef du bureau politique au magazine L'Actualité. Antoine Robitaille, chef du bureau d'enquête parlementaire pour le Journal de Montréal, le Journal de Québec. On se reparle demain, OK?
Au revoir.
Allez, puis après la pause, l'international avec Loïc Tassé.